Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Première étape franchie pour la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites de désinformation sur l'IVG. L'Assemblée nationale a voté le texte jeudi dernier. Il sera examiné par le Sénat après-demain pour une adoption définitive programmée d'ici à fin février. Alors les sénateurs seront-ils plus sensibles que leurs collègues députés aux arguments développés par l'Église catholique contre cette loi ? Fin novembre, le président de la Conférence des évêques de France, Georges Pontier, écrivait au président de la République pour dénoncer une atteinte grave au principe de la démocratie, cette extension du délit d'entrave étant assimilée à une limitation de la liberté d'expression. Cette intervention des évêques français aurait sans doute rencontré un moindre écho s'il n'y avait pas eu, quelques heures plus tôt, le sacre de François Fillon face à Alain Juppé. Au secours, Jésus revient, titré Libération la veille du scrutin pour s'alarmer d'un retour des lobbies catholiques dans la campagne présidentielle. Alors il est vrai que depuis la manif pour tous, un catholicisme décomplexé se manifeste dans le débat public pour y défendre une certaine idée de la famille et des valeurs chrétiennes. Mais sa forte visibilité ne signifie pas qu'il représente à lui seul l'expression politique de la communauté catholique. Et d'ailleurs, y a-t-il une façon catholique de faire de la politique ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités, qui sont tous les trois catholiques, justement. Eugénie Bastier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Figaro, rédactrice en chef politique de la revue trimestrielle Limite, qui est une revue d'écologie intégrale, revue de combat culturel et politique d'inspiration chrétienne. C'est comme ça que la revue se présente. Vous avez par ailleurs publié cette année aux éditions du Cerf « Adieu mademoiselle, la défaite des femmes ». Pour discuter avec vous, Vincent Némon, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la communication et porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France, la Conférence des évêques qui a publié le 14 octobre dernier un texte intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Ça n'était pas le premier du genre de ces dernières décennies, mais en tout cas c'est le dernier en date dans laquelle le texte explique notamment que les catholiques ont une forme de devoir de s'impliquer en tout cas dans la vie de la société. Et puis troisième invité, Grégoire Cata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre jésuite, maître de conférence en théologie au Centre Sèvres, qui est un établissement privé d'enseignement supérieur, membre du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, qui publie la revue Projet, et co-animateur de l'association La Politique, une bonne nouvelle, qui s'adresse notamment aux jeunes. Enfin, les jeunes, ça va de 18 à 35 ans, c'est à peu près ça, je crois.
Ouais, c'est assez large.
Alors, si vous permettez, je vais commencer par une question un petit peu personnelle à tous les trois, mais qui va nous permettre de monter un petit peu en généralité. Donc, je le disais, vous êtes tous les trois catholiques. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur la façon dont se sont forgées vos propres convictions politiques, Grégoire Cata ?
Oh oui, je crois très nettement. Enfin, on n'est pas catholique le matin et puis je sais pas quoi l'après-midi. Voilà, quand on a une foi, le désir de suivre le Christ, ben, ça informe toute notre vie. Donc oui, pour moi, ça a forcément... Je saurais pas distinguer quoi, quelles sont les parts de ma vie, mais forcément, ça a influé un petit peu ma manière de faire mes choix aussi au niveau politique.
Ouais. C'est la même chose pour vous, Eugénie Bastier. Je vous demande pas d'ailleurs de me dire pour qui vous allez voter. Hein. Ça ne regarde que vous. Mais en tout cas, voilà, sur l'influence que ça peut avoir des convictions religieuses et des convictions politiques, est-ce que c'est lié.
Bien sûr, et je crois d'ailleurs que c'est une erreur de distinguer d'un côté la politique et de l'autre la croyance, comme si la politique était quelque chose de scientifique et d'objectif, et que de l'autre côté il y aurait une forme d'irrationalité religieuse. Je crois que les deux sont intimement liés et que d'ailleurs même ceux qui sont athées en politique ont de certaines croyances. Par exemple, je pense à la croyance en la République ou à la croyance en la laïcité, à la croyance en une certaine forme de régime politique. Évidemment, nos convictions et nos croyances sont intimement liées. Et pour moi, évidemment, que le fait d'être catholique, influence mes objectifs politiques et mes choix politiques, évidemment, mais toujours dans la recherche du bien commun de la cité.
Enfin, c'en est bon.
Comment savez-vous que je suis catholique, déjà ?
Bah, vous êtes le porte-parole de la Conférence des évêques de France et je me dis que c'est peut-être mieux de l'être. Mais vous avez
bonne
raison,
déduction,
peut-être
bonne
que
déduction,
vous n'êtes pas.
Bonne déduction, non. Je pense que je reprendrai ce que disent vos autres invités. C'est comme une pièce à deux faces. On ne peut pas être à la fois catholique et non engagé dans la société et inversement, être dans la société et ne pas avoir de conviction, y compris celle de l'athéisme. Ce que vous posez comme question, c'est la question plus profonde de la laïcité telle qu'elle est comprise, je pense, dans l'Église, mais plus largement aussi. C'est tout l'enjeu d'une bonne laïcité où ceux qui croient à quelqu'un, à quelque chose, ou qui ne croit pas, doit pouvoir s'exprimer librement dans une société justement construite et qui offre un cadre dans lequel ses convictions peuvent s'exprimer. Donc oui, je sans doute personnellement que mes choix politiques que je fais dans le secret de l'isoloir sont influencés par mes convictions profondes.
Mais tiens, je vais vous retourner la question d'ailleurs finalement, par rapport à la remarque que vous avez faite, mais qui est tout à fait pertinente. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que vous auriez pu, sans être catholique, être un des porte-parole de la conférence des évêques de France, sachant que cette conférence a un discours sur le terrain politique?
Évidemment non, et vous me donnez l'occasion de redire aussi combien, en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de gens qui m'entourent, cette vie de foi que l'on a la chance de vivre dans le boulot, c'est assez rare, est importante dans la façon de travailler. Voilà, et donc je peux peut-être le confesser, je sais pas si je peux le faire sur cette antenne, mais on a une vie de prière collective, on a une vie de prière individuelle qui permet une expression de notre foi, soit de façon un peu intime, soit de façon plus collective, et qui sans doute sous-tend un certain nombre de choses dans notre travail, bien sûr.
Je reste sur ma question sur les liens qu'il peut y avoir entre la conviction religieuse et les convictions politiques. Est-ce que ça veut dire que, enfin, de ce que vous vivez, vous, et de ce que vous pouvez observer autour de vous, que dans l'isoloir, justement, il y a un lien direct, c'est-à-dire qu'un catholique va plutôt voter pour un candidat qui sera catholique ou qui porterait ou qui portera les valeurs du catholicisme? À condition, bien sûr, de savoir ce que sont les valeurs du catholicisme, Grégoire Capelle.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est ça vraiment la question importante. Puis d'ailleurs, vous l'avez bien posé avec le titre de votre émission. Y a-t-il une façon catholique de faire de la politique? Certainement oui, mais voyez que vous posez pas la question, est-ce qu'il y a une politique chrétienne ou est-ce qu'il y a un système politique qui serait 100% catholique ou chrétien? Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que c'est tout à fait juste, quoi. On n'est pas en période, enfin, on n'est pas en état de chrétienté où l'Église aurait prétention à dire exactement quel est le système, l'organisation de la société, l'option politique qu'on doit prendre. Voilà, on croit en Jésus-Christ, on lit les évangiles. Dans les évangiles, il n'y a pas un programme politique tout fait. On est aussi dans le catholicisme après 50 ans après Vatican II qui a réaffirmé, quoi, l'autonomie du politique par rapport aux religieux. Et donc, oui, il y a quelque chose, il y a vraiment un rôle à jouer, mais qui n'est pas de l'ordre de l'imposition de quelque chose d'uniforme. Et du coup, ce qui vient immédiatement avec ça, c'est que du coup, et c'est bien aussi ce que rappelait le Concile l'a dit de manière très claire, c'est que les catholiques, les chrétiens vont s'engager dans la cité, quoi, au nom de conviction, et ils seront en désaccord les uns avec les autres parce qu'ils n'auront pas exactement les mêmes nuances. Et donc ça ouvre le champ à la légitimité d'une pluralité de sensibilités politiques à l'intérieur du catholicisme.
Eugénie Bastier.
Oui, je crois que s'il y a un génie politique du christianisme, c'est bien sans doute dans la séparation justement du temporel et du religieux et du spirituel. Et le fait que, voilà, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une phrase galvaudée, mais c'est une phrase quand même très importante qui fonde quand même cette séparation entre la cité de Dieu et la cité de l'homme. Et je crois que le catholique a conscience de ça et ce qui le sépare peut-être que d'autres religions politiques. C'est vraiment la force du christianisme, c'est cette séparation radicale. Mais ce qui n'empêche pas aux catholiques de s'engager, notamment pour le bien commun. Il y a toute une tradition de théologie politique dans le christianisme, notamment chez saint Thomas d'Aquin, avec cette définition du bien commun, et ce devoir qu'a le catholique de s'investir pour le bien commun dans la cité, tout en ayant conscience que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde et que finalement tout ce qu'il fera sur cette terre est voué à l'imperfection et qu'il n'y a pas de on ne peut pas transformer radicalement la société et en faire un paradis sur terre. Ça, je pense que c'est très important. Et ce qui fait peut-être aussi qu'une certaine utopie de gauche, notamment le communisme et une forme d'utopie gauchiste ne séduit pas entièrement le catholique, même si bien sûr il existe des catholiques de gauche. C'est aussi cette idée que la société est imparfaite et que finalement le progressisme est un christianisme qui s'impatiente puisqu'il consiste à vouloir changer la société radicalement aujourd'hui, maintenant, alors que le catholique a conscience que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde.
À ce titre-là, est-ce que vous diriez que le pape François n'est peut-être pas tout à fait alors catholique, parce que c'est lui quand même porte justement des valeurs extrêmement progressistes et est particulièrement populaire à gauche. C'est sans doute un des papes en tout cas qui a été le plus populaire Parmi la gauche et parmi les non-croyants, peut-être même d'ailleurs.
Mais tant mieux qu'ils soient populaires, simplement quand même les hommes politiques en parlent entre eux, l'un dit à l'autre qu'il verrait mieux de lire et de mieux connaître ce que dit le pape. Seulement, je pense que, j'allais le dire, on a un pape formidable qui nous invite à s'engager en politique. Il nous dit la politique est l'une des formes les plus élevées de la charité. Il n'a pas dit de la solidarité, il n'a pas dit de l'espérance, il a dit de la charité. C'est-à-dire qu'il nous invite à y aller et à se relever les manches, même à se salir les mains et le cœur en disant qu'on a, nous, la possibilité aussi de trouver le pardon et qu'il faut y aller. Il faut rentrer dans l'arène, hein, c'est le terme qu'il choisit, ne pas rester au balcon. Et pour reprendre ce que disait Eugénie, il dit aussi, bien sûr que le bien commun, c'est sans doute... on peut déduire de ce qu'il dit que le bien commun est un des critères de choix pour nous lorsque nous sommes dans l'isoloir. Il parle très clairement aussi de ce que les catholiques doivent faire, lutter contre le culte du dieu argent, contre la culture du déchet, contre le politique qui tue les bébés à naître, contre les politiques qui écartent les personnes âgées. Donc vous voyez, tout ça, on peut très bien se dire que dans des programmes politiques, c'est plus ou moins présent, c'est plus ou moins fort, et que donc lorsqu'on est catholique et que l'on a ces convictions profondément attachées en nous, ça peut être des choix qui permettent d'orienter son vote.
Oui. Est-ce que quand on est catholique, et là j'adresse la question à vous trois, ces questions que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire à la fois lutter contre l'exclusion, contre la pauvreté, et puis s'opposer à l'IVG, puisque moi je vais plutôt reprendre le terme légal, si vous voulez bien, l'intervention volontaire de grossesse, est-ce que ça, ce sont des sujets qui font consensus, ou bien est-ce que ce sont des sujets de divergence tels que vous les évoquiez dans votre précédente intervention, Grégoire Catta?
Ce qui peut, en général, ce qui fait consensus, c'est la dynamique de fond. Mais on peut dire que ça serait mieux qu'il y ait moins d'IVG et ça serait mieux qu'on s'occupe mieux des pauvres. Après, on peut avoir des divergences, comme tous les êtres humains, sur la manière de procéder, quoi, pour arriver, la manière de faire pour arriver à ce bien commun, pour un meilleur respect de la dignité humaine à tous les âges de la vie. Alors là, évidemment, oui, il y a du débat et il peut y avoir du débat, et c'est normal. Et puis, forcément, comme tous les programmes politiques, encore une fois, ne sont pas 100% compatibles avec toutes les valeurs qu'on souhaiterait porter, il y a un effet aussi d'arbitrage. Qui est-ce qui, en ce moment, dans la société telle que je la vois aujourd'hui, qu'est-ce qui va permettre de faire avancer plus avant le royaume de Dieu que je souhaite faire venir? On peut avoir des opinions un peu différentes sur les priorités.
Mais sur ça, c'est légitime. Sur la question de l'IVG, justement, sans en faire l'objet exclusif, évidemment, de ce débat. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, en tout cas par rapport à ce qui ressort sur le terrain médiatique aujourd'hui, que c'est un élément de forte crispation de l'ensemble de la communauté catholique. Alors, est-ce qu'il y a une forme de déformation médiatique sur le sujet, justement?
Je pense que ce qu'on reproche au catholicisme, c'est sa cohérence, justement. C'est-à-dire qu'on l'applaudit quand il défend les migrants, on l'applaudit quand il défend les pauvres, on l'applaudit quand il défend tous les damnés de la terre, mais dès qu'il se met à défendre le plus faible et aussi donc l'embryon, par exemple, là, par contre, ça ne passe plus. Et en fait, on reproche finalement cette cohérence. Et finalement, parce qu'il y a deux
grandes... Donc vous dites qu'il y a cohérence, en tout cas, sur ce sujet-là, chez les catholiques.
Parce qu'il y a d'un côté la doctrine sociale de l'Église, qui est donc... qui critique, évidemment, le capitalisme financier, qui met la priorité sur les plus pauvres, et qui est augmentée aujourd'hui par la dimension écologique, qui, à mon avis, est une étape supplémentaire dans la doctrine sociale de l'Église. Et de l'autre, il y a ce que Benoît XVI appelait les points non négociables, qui sont la défense de la famille et de la vie sous toutes ses formes et de la dignité humaine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à faire des catholiques justement des défenseurs uniquement des points non négociables, mais parce que finalement, ce sont ces points non négociables qui choquent le plus dans notre société et qui sont le plus en rupture avec une forme de consensus démocratique aujourd'hui dans notre société. Donc ces points-là vont en avant parce qu'ils ne sont pas consensuels.
Grégoire Catta.
Voilà. J'ajouterais sur la question, ce qu'on présente parfois sous cette notion de point non négociable, en fait, quand on reprend ce que disait le pape Benoît XVI, il disait en fait il y a des valeurs dont on ne peut pas se passer, qu'on doit prendre en compte. Et parmi ces valeurs, il en fait toute une liste. Et donc il y a ces trois qui viennent d'être mentionnées, puis après il rajoute la paix, la solidarité, la question des migrants. Donc c'est là où on voit qu'il y a une vraie... On n'a pas attendu le pape François pour avoir une présentation du discours qui soit tout à fait, qui soit... je suis tout à fait d'accord avec vous, qui soit vraiment de l'ordre de la cohérence. Voilà. Alors aujourd'hui, ça prend le chemin, et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous avec le pape François, ça prend ce chemin de dire marchons vers une écologie intégrale, une prise en compte de une protection, prendre soin de notre maison commune, c'est-à-dire à la fois de l'environnement qui est maltraité, de notre sœur, la terre qui est maltraitée, à la fois des plus faibles et des plus pauvres, des bébés, des personnes âgées. Voilà, on a quelque chose qui est quand même très cohérent.
Ça veut dire quoi? aujourd'hui, si je suis catholique, je ne peux pas être contre l'IVG.
Alors, je ne sais pas si je vais vous expliquer, parce que qui serais-je pour vous expliquer.
Vous êtes Vincent Némon.
Le catholicisme, ouais, voilà, je ne suis que moi-même. Le catholicisme, c'est pas un ensemble de règles qu'on doit respecter aveuglément. Je pense que le pape, encore une fois, le pape François l'a dit, tout est lié. C'est pas le premier à l'avoir dit, mais il l'a redit. Et donc, il y a une sorte de logique à ce que toutes ces convictions soient liées entre elles. Lorsqu'on parle des plus fragiles, on parle à la fois des plus pauvres, on parle aussi des bébés dans le ventre de leur maman, on parle aussi des personnes en fin de vie, on parle de toutes ces personnes qui sont non pas les plus fragiles à protéger parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont finalement, parce que l'Église voit dans ces personnes la vie la plus importante pour elles-mêmes et pour l'ensemble de la société. Une société qui ne respecterait pas ses plus fragiles est une société qui finalement ne respecterait plus grand monde et plus personne à la fin.
Donc vous répondez pas totalement à ma question. Est-ce que quand on est catholique, ça veut dire qu'on est forcément opposé à l'IVG ?
On est opposé à la suppression de la vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est... c'est un vrai débat. Quand est-ce que la vie arrive ?
Je pourrais vous dire, je peux aussi le dire. J'ai eu une éducation catholique, je ne me sens pas particulièrement catholique aujourd'hui, mais je suis opposé à la suppression de la vie et je ne suis pas opposé à l'IVG.
Moi, par exemple, je suis catholique, mais je suis pour la loi Veil, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas revenir sur la loi Veil et que, pour moi, la loi Veil est une loi de santé publique, c'est-à-dire que c'est une loi qui empêche des femmes de mourir dans des conditions abominables qui auraient avorté de toute façon. Mais simplement, je suis contre une vision triomphaliste de l'avortement qui fait de l'avortement un droit fondamental qui est incritiquable. On est passé de l'avortement comme tabou à l'avortement comme totem. Et je crois que les catholiques ont un mot à dire là-dessus en disant, simplement prenons... manipulons ces concepts avec prudence, parce que derrière il y a quand même beaucoup de drames, on ne parle pas de choses anodines. Et peut-être que les catholiques, le rôle des catholiques, c'est de rappeler cette gravité-là et se rappeler le caractère sacré de la vie, même si évidemment on est dans des compromis permanents avec la politique.
On est dans une société quand même qui est assez manichéenne, et lorsque l'on dit que lorsque l'Église affirme très très simplement, très sereinement qu'elle est contre l'avortement, elle ne dit pas qu'elle condamne les personnes. Et ça, c'est très compliqué à comprendre dans notre société. Je pense que les structures d'église sont celles qui accueillent sans doute, peut-être beaucoup en tout cas, de femmes qui se posent des questions ou qui ont vécu le drame de l'avortement. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. L'église est là pour aimer les personnes, quel que soit ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles vont faire. En revanche, l'église est là aussi pour dire ce qu'elle considère comme juste, injuste, bien ou mal. Et donc voilà, vous voyez la différence, la difficulté. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. L'Église, elle a le devoir de vous rappeler ce qu'elle pense juste ou moins juste.
On vient de passer quelques minutes par ma faute, hein, puisque c'est moi qui vous ai posé ces questions. Mais sur cette question de l'IVG, parce que c'est aussi une question importante qui est revenue à la faveur justement du débat de la primaire de la droite, par rapport aussi à cette proposition de loi et à la lettre du président de la Conférence des évêques de France. Est-ce que se focaliser, parce qu'on a quand même aussi l'impression que c'est ça, c'est-à-dire se focaliser sur ces questions-là, ça ne se fait pas au détriment d'autres questions qui peuvent être portées par les catholiques. Et je voudrais par exemple vous faire écouter cet exemple. C'était le 17 novembre, c'est pas très vieux.
Près de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, 1000 euros par mois. Depuis 15 ans, les enfants, les femmes et les étrangers se retrouvent de plus en plus souvent en situation de précarité. Autre constat inquiétant, les diplômes protègent moins bien de la pauvreté. Parmi les personnes accueillies par le Secours catholique en 2015, 45% avaient fait des études secondaires, 16% des études supérieures, 28% ont arrêté l'école avant 16 ans. Difficile pour ces personnes d'obtenir les aides auxquelles elles ont droit. Plus d'un tiers ne demande pas le RSA, soit par honte, soit parce qu'elles rencontrent des problèmes avec les démarches administratives.
Voilà, c'était un compte-rendu du dernier rapport rendu par le Secours catholique sur la pauvreté. C'est un rapport annuel. On ne peut pas dire qu'il ait rencontré un énorme écho médiatique cette année. Enfin, en tout cas, on en a moins parlé que les questions de retour de la chrétienté dans le débat politique. Grégoire Catta.
Non, mais là-dessus, bon, après, c'est vrai que enfin, les médias jouent leur rôle, mais il faut reconnaître que c'est bien un bon exemple aussi de la manière dont, les catholiques apportent leur contribution aussi au débat public. Hein. C'est pas simplement au travers de la parole des évêques. Ce qu'a fait le Secours catholique, le Secours catholique a envoyé, moi j'étais à cette journée où ils ont rendu public leur rapport, ils l'ont envoyé à tous les députés, ils l'ont envoyé à tous les candidats de la primaire. On a vu que d'un seul coup c'est ressorti le débat le soir. Bon voilà, il y a aussi cet effort-là de porter une certaine parole qui puise ses racines dans les convictions de foi et puis aussi ailleurs, et qui est portée, ben voilà, je dirais, pas simplement par, encore une fois, pas simplement par les évêques, mais parce que l'Église, c'est pas que les évêques.
Sauf peut-être de manière moins visible. Dans le dernier numéro de Limite, avec en une, c'est quoi ce travail? Il y a une interview très intéressante d'un sociologue qui s'appelle Yann Raison, alors qui définit quelles sont les quatre grandes familles du catholicisme. Il fait un petit peu le travail qu'avait fait René Raymond par rapport à la droite. Alors lui, il y voit les conciliaires, les observants, les deux autres, les inspirés et les émancipés. Bon, il faut lire le numéro pour savoir de quoi ça recouvre. Et il dit notamment ceci par rapport à la visibilité, on va dire, du catholicisme social par rapport à un catholicisme de valeurs, qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui ne va pas toujours ensemble. Il dit ceci. Les initiatives post-manif pour tous ont encore peu d'importance à côté de l'action politique du Secours catholique ou du CCFD Terre solidaire ou de la réflexion développée par la revue Projet. Mais ces initiatives sont sans grande visibilité car ils privilégient l'action en chrétien plutôt que l'action en tant que chrétien. Est-ce que sur la question de la communication, par exemple Eugénie Bastier, on n'est pas confronté déjà peut-être à deux générations, une génération un petit peu plus jeune qui maîtrise mieux les codes de la com et qui arrive mieux à faire passer ses idées?
C'est pas une question de communication, je crois qu'il faut... Enfin, il faut pas opposer l'un à l'autre, en fait. C'est-à-dire que je crois que la génération qu'on appelle Manif pour tous n'est pas une génération monomaniaque sur les sujets de la famille et qui ne pense pas matin, midi et soir uniquement à la famille, à l'avortement. C'est pas vrai. Il y a des gens comme nous, par exemple à la revue Limite, on essaie de tenir les deux bouts, c'est-à-dire d'à la fois ce qu'on appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire d'à la fois défendre une forme de protection des plus faibles, une protection de la famille, et en même temps s'intéresser aux problématiques sociales, aux problématiques écologiques, et on est vraiment dans une espèce de vision intégrale du monde. Et
quand la Manif pour tous annonce qu'elle a, enfin, quand le mouvement Sens commun qui est issu de la Manif pour tous annonce qu'il va soutenir François Fillon, a priori, c'est pas pour défendre sa politique sociale à l'égard de ceux qui sont le plus exclus. On peut pas dire que la politique sociale de François Fillon, elle se préoccupe en premier lieu de ceux qui sont les plus exclus.
Ils ont fait ce choix-là de peser à droite à l'intérieur de la grande famille politique de la droite. C'était un choix qui était un des choix qui était possible, de faire une forme de trotskisme. Et après, de peser éventuellement justement sur la ligne du candidat de la droite sur des questions sociétales type famille, etc. Mais aussi un programme qui peut être aussi plus social, puisque le programme de Sens commun est beaucoup plus social que celui de François Fillon.
Puis il faut rappeler, Sens commun n'a pas prétention à représenter la position catholique, puisqu'on l'a dit depuis le début de cette émission, il n'y en a pas une. Et puis d'ailleurs, ils ne le prétendent pas eux-mêmes. Donc ils apportent, voilà, ils ont mis des priorités, ils ont une manière de faire. Puis après... d'autres catholiques s'expriment de manière différente.
Et s'ils n'ont pas la prétention de les représenter, en tout cas, on peut dire qu'ils ont peut-être une représentation, médiatique et politique, qui n'est pas tout à fait proportionnelle à ce qu'ils représentent vraiment, non, Vincent Némon?
Non, mais je voudrais répondre à votre question précisément sur la surdimension de certains sujets par rapport à d'autres. À ma connaissance, le délit d'entrave numérique est une proposition de loi qui a été faite par des députés socialistes. Et donc, la réaction de l'Église et de l'ensemble de beaucoup de catholiques a été en proportion de l'aberration que constitue ce délit d'entrave numérique. Voilà. Maintenant, si
ce sont pas les catholiques qui ont remis cette question
maintenant,
sur la table.
Si un député veut s'emparer d'une loi sociale qui permette au Secours catholique de mieux répondre aux questions de pauvreté, tant mieux. Et peut-être que l'Église réagira aussi. Donc, je pense que là, il faut mettre le procès au bon endroit, si je peux me permettre. C'est-à-dire que il y a aussi une vie sociale, une vie sociétale qui fait que l'Église, qui est dans le monde, réagit à ce qui s'y passe. Et dans la période électorale, souvent, ce qui s'y passe, ça a quelquefois un petit goût d'orientation.
Jacques Julliard, aujourd'hui, dans le Figaro, très bon journal, n'est-ce pas, Jésus Bastier, fait une chronique assez très intéressante, intitulée « Quand la séparation entre la métaphysique et l'État ». Et Il dit qu'aujourd'hui, les catholiques sociaux, à force d'être sociaux, ont fini par négliger d'être catholiques. Est-ce que ça n'est quand même pas une préoccupation par rapport à d'autres manifestations, justement, du catholicisme sur la scène politique, Grégoire Catta ?
Non, je crois que là, on est sur des analyses qui sont quand même un petit peu... qui restent un petit peu enfermées, quoi, dans des clivages anciens, quoi.
Ça serait quoi, les clivages ? Ça serait les vieux qui étaient plutôt des cathos de gauche et les jeunes qui seraient plutôt des cathos de droite ?
C'est aussi... Enfin, aussi dans la jeunesse catholique ou ailleurs, on voit quand même beaucoup de fluidité aussi aujourd'hui, en tout cas moi je le sens. Après moi je suis pas un analyste politique, je peux pas donner tous les chiffres, mais je voudrais simplement, avec cette idée de dire il y a les catholiques de valeur et les catholiques sociaux, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Au fond, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, catholicisme social, c'était le cardinal de Lubac qui disait ça, qu'on peut quand même pas accuser d'être un infâme gauchiste, quoi. Il disait c'est un pléonasme, c'est simplement, oui, mais, pour la bonne et simple raison que quand on suit le Christ, on est dans la société. Le Christ, le Dieu est venu s'incarner dans la société, donc forcément, on est social. Alors après, on l'exprime de manière différente, mais voilà, quoi. Et encore une fois, je crois que le fait, voilà, on peut opposer et dire pas que social. Moi, je dirais social, mais social s'exprimant dans différentes sphères, quoi. Voilà.
Et c'est... Alors, est-ce que ça pourrait vouloir dire, et je vais reposer un peu la même question que tout à l'heure sur l'IVG, que si on ne se préoccupe pas d'exclusion sociale aujourd'hui, si ça n'est pas quelque chose qui peut vous conduire à vous impliquer dans la vie de la société, ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus être catholique, Vincent Némon. Ah.
Non.
Là, c'est plus compliqué.
Oui, c'est plus compliqué. Mais c'est une évidence, quoi.
je pense qu'on peut... enfin, c'est le contraire, quoi. C'est-à-dire que... À mon avis, aujourd'hui, lorsque l'on est sur ces questions de valeurs, comme vous dites, de convictions liées à la vie, etc. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte de correspondance beaucoup plus logique qu'hier avec les questions sociales, les questions d'exclusion, etc. Et que donc aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, vu de ma fenêtre, que nous sommes dans un catholicisme beaucoup plus serein. Et donc une façon de vivre son catholicisme de la part de cette génération qui arrive, qui fait le lien entre toutes ces questions et qui fait le lien avec son engagement politique.
Le problème, c'est de faire une hiérarchie entre ces questions, parce que pour moi, c'est aussi important l'un que l'autre. Et pas simplement, par exemple, j'observe que beaucoup dans l'Église s'élèvent, par exemple, sur la tentation des catholiques de voter Front National, en disant que le programme du Front National serait incompatible avec les valeurs de l'Église. J'observe qu'il y a aussi des choses très incompatibles dans le programme du Parti Socialiste ou du Parti Communiste avec les valeurs de l'Église, et que jamais il y a une espèce de deux poids deux mesures là-dessus, parce que il y a une espèce de focalisation sur le Front National, alors qu'il n'y a aucun parti, en fait, qui corresponde exactement à la doctrine de l'Église, et que finalement il y a toujours des incompatibilités, des divergences. Simplement, voilà, les catholiques investissent plein de différents mouvements politiques. Moi, je trouve ça très bien que les catholiques s'engagent dans tous les partis politiques, quels qu'ils soient, parce qu'ils ne peuvent que les rendre meilleurs, alors, en ayant ce souci du bien commun.
Ça tombe très bien que vous parliez du Front National, parce que justement, au mois d'octobre, là aussi c'est tout récent, la revue Projet, donc vous connaissez bien, hein, Grégoire Catta, je rappelle que vous êtes prêtre jésuite et un des chercheurs au CERAS, voilà, Centre de Recherche et d'Action Sociale. La revue Projet, en partenariat d'ailleurs avec le journal La Croix, publie un numéro, Face à l'extrême droite, écouter, comprendre, agir. Mais c'était quand même face à l'extrême droite. L'idée, c'était aussi de dire qu'il y avait un danger de voir le Front National monter et que les catholiques avaient une responsabilité dans le fait d'empêcher cette montée.
Alors, c'est justement intéressant que vous rappeliez le titre, hein, qu'on a donné à cette revue. Écouter, comprendre, agir. Parce que ça répond bien aussi à la question que vous avez posée au début. Y a-t-il une façon catholique de faire de la politique ? Ben, y a une façon catholique, il y a une façon chrétienne d'aborder cette question-là. Oui, il y a des choses qui nous heurtent dans les idées du Front National, dans les idées de l'extrême droite. Oui, on est alerté par cette montée. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est dit... Il faut écouter ce phénomène. C'est quand même pas quelque chose de banal. Il faut écouter et entendre, quoi, le cri qui se lève au travers de ce phénomène. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, quoi, avec les réponses qui s'est données. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit, mais on écoute. Et puis après, on cherche à comprendre et après, on agit. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de la manière aussi de faire. L'écoute, hein. Le pape François dit souvent, quand il parle aussi de l'option pour les pauvres, quoi, que la chose la plus importante, c'est à la fois de placer les pauvres au centre de nos préoccupations, mais c'est aussi d'être capable d'écouter, quoi. Voilà. Et cette écoute, elle se déploie dans toutes les dimensions quoi de la vie.
Donc ça, c'est le premier temps, écouter, voilà. Ensuite c'est comprendre, ensuite c'est agir. Agir, ça
alors,
veut dire quoi?
Alors évidemment après agir c'est entendre. Alors nous ce qu'on a entendu c'est beaucoup de, on a même fait, il y a un article à la fin qui se termine par l'humiliation, c'est un grand sentiment d'abandon, d'humiliation de la part d'une partie de la population. Et voilà. Et c'est ça qui se manifeste, quoi, dans ce. Alors, comment on y répond? Eh bien, on y répond aussi en affirmant, et c'est ça ce qu'on a fait aussi dans le numéro. Il y a des expériences. On se rend compte qu'il y a des lieux, par exemple, il y a une grande source d'inquiétude aujourd'hui. C'est le fait d'une pluralité culturelle. Pour beaucoup, c'est vu comme une menace. Et comme le pape François appelait les jeunes à Cracovie, aux Journées mondiales de la jeunesse, devant ces millions de jeunes, il leur a dit: on a besoin, nous les adultes, vous les jeunes, vous nous rappeliez que la pluriculturalité, la multiculturalité est d'abord une richesse avant d'être une menace. Eh ben, ça, on l'a fait dans le numéro en donnant des expériences aussi de ce qui se fait. Voilà.
Juste un mot, Grégoire Cata, est-ce que c'est une initiative qui a été unanimement bien perçue, ou bien est-ce que certains croyants catholiques ont pu être un peu choqués par cette façon de se positionner?
Eh bien, je dois dire, en fait, le processus a été très long. On a travaillé avec une dizaine d'associations partenaires. Des scouts et guides de France, le Secours catholique, le CCFD, l'Action catholique indépendante, qui sont venus nous rejoindre, quoi. Et puis, le journal La Croix a accepté de diffuser le numéro, mais encore une fois, c'était sur nos frais, et voilà, était simplement de cette façon-là. Et dans le processus, évidemment, au début, quand on a parlé du numéro, il y avait un peu des réticences de la part de certains, de dire oui, mais est-ce que vous allez vraiment réussir? Le résultat a montré que finalement, ça s'est bien passé parce qu'on a été au bout de notre logique, quoi, qui était non pas de pointer du doigt, non pas de stigmatiser, mais d'entendre un phénomène qui est important et de voir comment on pouvait y répondre de manière, nous, en tant que catholique, en tant que chrétien.
Vincent Aimant, c'est une initiative que soutient la Conférence des évêques de France?
C'est une initiative que n'a pas besoin de soutenir la Conférence des évêques de France. C'est une initiative, vous savez, dans l'Église...
Imaginons qu'elle ait besoin de le soutenir ou de ne pas le faire.
Non,
en tout cas, se positionner sur cette initiative.
Ne l'imaginons pas. Vous savez, une semaine après la sortie de projet, les évêques de France sortaient, publiaient eux-mêmes leurs lettres.
Notamment ceci, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère intensifiée par les attentats et les agressions qui habitent une part importante des habitants de notre pays.
Absolument. Donc un constat, la même méthode, un constat et un appel à finalement chercher du sens, chercher dans cette société qui ne propose plus de sens et parmi les politiques qui n'en proposent plus non plus, chercher à retrouver ce sens de la politique, c'est-à-dire du bien commun, du vivre ensemble dans une société qui est de fait multiculturelle. C'est pas un choix de la société, elle est comme ça, elle est mondialisée. Et donc je pense que du côté des évêques de France, l'apparition de cette lettre arrivait finalement comme une sorte de suite logique à une prise de position, c'est vrai, d'une certaine partie des catholiques qui voulaient alerter contre un phénomène qu'ils trouvent dangereux. Les évêques, eux, ont pris peut-être, si je peux me permettre modestement, un peu de hauteur par rapport aux différents débats. Et je crois qu'une des phrases les plus importantes qu'il faut peut-être retenir de cette lettre, c'est « plus d'armure, c'est de charpente que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde d'aujourd'hui ». C'est donc, pour rejoindre peut-être les propos des jésuites, hein, du Séras, attention, ne construisons pas des murs et ne nous armons pas d'armure, mais essayons de travailler sur nous-mêmes pour être mieux charpentés pour répondre aux exigences du monde d'aujourd'hui. Voilà ce que les évêques ont voulu dire.
Eugénie Bastier, c'est allé un peu trop loin ou...
À chaque fois que j'entends le mot « vivre ensemble », je me demande si c'est la gauche qui a récupérer les sermons de l'Église ou si c'est l'inverse. Parce que c'est vrai qu'on retrouve ce vocabulaire à la fois dans les communiqués de la CEF et dans les...
Moi, je ne suis pas gêné d'emprunter du vocabulaire.
Non, mais je me demande toujours, mais vraiment, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que le mot vivre ensemble, d'où il vient?
Le mot vivre ensemble, c'est pas un gros mot, quoi.
Bah,
c'est quand même quelque chose de très vrai qu'on a besoin de vivre.
Oui, c'est un mot très galvaudé qui ne peut strictement plus rien dire aujourd'hui, puisque...
Certains préfèrent l'écarter en disant que c'est galvaudé, oui, ça...
C'est galvaudé, je préfère parler de...
J'ai entendu, mais c'est pourtant un grand
défi. De fraternité à la rigueur, de solidarité ou de... Ou de solidarité communautaire ou de lien social, mais le mot vivre ensemble,
non, si vous voulez,
ça me paraît quand même un mot assez galvaudé aujourd'hui. Et puis quand vous dites que le multiculturalisme est une valeur prônée par l'Église, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin,
ouais. Ce sont les mots du pape.
Du pape, mais Benoît XVI aussi a dit autre chose, a dit que les identités nationales étaient importantes et que les cultures Et que l'enracinement était important. Donc il y a aussi un discours de Louis XVI là-dessus. Voilà. Donc,
mais il faut rappeler quand même la tradition de l'Église. Quoi.
Cette tradition est complexe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas reprendre le vocabulaire multiculturaliste du déracinement, alors que l'Église essaie de trouver un point d'équilibre justement entre la nécessité de l'universalité et la nécessité d'un enracinement dans une culture locale et particulière. Mmh. Et en faisant ce projet contre le Front National,
ce n'est pas un numéro contre le Front National.
Face au Front National, vous n'avez jamais fait pour aucun autre parti politique. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu passer une brochure comme ça face au Parti Socialiste ou face à l'UMP ou face au Parti Communiste. Vous donnez l'impression qu'il y a une spécificité malfaisante du Front National et vous stigmatisez dans ce même temps tous ces catholiques qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le Front National.
Mais vous disiez, Eugénie Bassier, tout à l'heure, finalement, tous les catholiques ont vocation finalement à militer dans n'importe quel parti, à s'engager politiquement. Après tout, on peut aussi voir dans cette initiative de la Revue Projet une forme d'engagement politique.
Mais je crois qu'elle va à rebours justement à ce qui se passe dans la société française et notamment qui est une normalisation du Front National et le fait de traiter le Front National comme un parti comme les autres. Et Monseigneur Ray a invité par exemple Marion Maréchal Le Pen à son université d'été à la Sainte-Baume et ça a fait scandale parce qu'il a lutté, il a fait une rupture avec le cordon sanitaire mis par l'Église autour du Front National. Et moi je crois qu'il faut traiter le Front National comme un parti comme les autres et l'Église doit rappeler les points spécifiques évidemment, mais doit le faire pour tout le monde.
Alors c'est bien là où on a une différence d'appréciation, hein, et je crois que c'est important là ce que nous avons fait. C'est vrai que si on a choisi de prendre ce thème-là, c'est d'abord parce qu'il y a un état de fait. Il n'y a pas beaucoup de partis qui sont montés, de partis d'extrême qui soient montés à 28% des votes. Le fait que les catholiques votent de plus en plus pour ce parti-là nous a aussi posé question. Et puis, il y a quand même une différence qui nous paraît importante, et qui d'ailleurs est aussi en lien avec ce que disent les évêques, c'est que dans le programme de ce parti, il y a à toutes les lignes le fait que la raison de tous nos maux, c'est l'immigration. Et bien ça, ce discours-là, nous ne l'acceptons pas. Et ce n'est pas simplement quelque chose à la marche, c'est quelque chose qui vient à toutes les pages du programme du Front National. Et là-dessus, nous qui croyons qu'à la suite de ce document qui avait un très beau titre, qui a été publié en 2013 par le Conseil Pontifical Corunum, qui disait « accueillir Jésus-Christ dans le réfugié et les personnes déplacées de force », ben voilà, ça c'est un beau résumé, tout simplement parce que dans l'Évangile on dit « j'étais étranger et vous m'avez accueilli ».
Est-ce qu'il y a un discours clair aujourd'hui de l'Église catholique, Vincent Némond, sur cette question de l'immigration qui est et qui va être évidemment un des thèmes importants de cette campagne présidentielle?
Oui, je pense qu'il y a un discours assez clair, il y a un discours qui se veut être à la fois réaliste, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais quand même un discours réaliste sur les capacités réelles d'accueil, sur les capacités d'intégration, je ne veux pas parler d'assimilation, sur les capacités réelles de dialogue avec les autres cultures. Il faut être réaliste, je pense qu'on a notamment un pape qui est réaliste, qui est pragmatique, et en même temps, il y a cette exigence de la doctrine sociale de l'Église, de l'accueil inconditionnel de l'étranger. Et donc, c'est une vraie tension. Et je pense que l'Église, elle est là. Elle n'est pas là pour trancher et pour dire il faut ouvrir les frontières complètement et accueillir toute la misère du monde. Elle sait très bien, parce qu'elle est citoyenne, parce qu'elle est dans le monde, que c'est pas possible. Et en même temps, elle dit c'est une exigence évangélique que d'accueillir l'étranger. Alors, voilà, les termes du débat sont posés. Et les évêques, dans leur lettre que vous citez, rappellent une chose importante. C'est quand même que l'Église est aussi dans le compromis. Il ne s'agit pas d'être dans l'anathème, de condamner les uns, de bénir les autres et d'avoir forcément une position qui permet à certains de se conforter en fermant les frontières ou à d'autres en les ouvrant. L'Église, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour rappeler des exigences évangéliques qui peuvent aller quelquefois jusque d'ailleurs, à la désobéissance civile. C'est possible aussi. Mais aussi, elle est là pour dire que, attention, le bien commun, la structuration de la société et la cohérence de la société, elle passe pas aussi par le faire n'importe quoi. Je vais pas prendre le vivre ensemble comme thème parce que ça me plaît, mais je pense que la préservation de la vie en société, l'Église, c'est son premier objectif.
Non, mais vous avez raison, il y a une vraie tension. Et puis, tout catholique est forcément au moins déchirée sur cette question de l'immigration, parce que c'est vrai que il y a une exigence évangélique de l'accueil, évidemment, mais il y a une différence aussi entre le catholicisme est une conviction intime et personnelle, et on peut pas demander à l'État d'être un bon samaritain. C'est complètement incompatible, et c'est compatible même par rapport à la doctrine de l'Église, qui est une séparation du politique et du religieux. Et on peut pas demander à l'État d'agir comme le bon samaritain, sinon il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation. Ça me paraît logique, mais pour autant toutes les initiatives d'accueil individuelles, je pense notamment aux réfugiés, doivent être soutenues par l'Église, et d'ailleurs sont le fait souvent de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui accueillent des réfugiés dans leur famille, mais c'est une différence entre le faire dans sa famille et accueillir notamment par exemple une famille dans une autre famille, qui est un geste de fraternité, et d'exiger de l'État qu'il le fasse comme une politique d'État universelle et générale. Et je pense que c'est là la vraie tension, et on peut pas demander à l'État d'être le bon samaritain.
Étant donné les lignes qui sont définies dans cette intervention publique des évêques de France dans leur lettre d'octobre dernier, Vincent Némon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que pour la prochaine présidentielle, la conférence des évêques appelle à voter pour un candidat ou appelle à voter contre un candidat en disant, voilà, celui-là ou celle-là, on n'en veut pas?
À votre avis?
J'ai ma petite idée, mais j'aimerais vous l'entendre dire.
Non, évidemment pas. Évidemment, je pense que l'Église a le devoir modestement, parce qu'encore une fois, c'est un travail modeste, d'éclairer autant qu'elle le peut, avec le livre qu'elle a, c'est-à-dire l'Évangile et la révélation divine, les consciences de ceux qui veulent bien la suivre. Voilà, et chacun, dans le secret de l'isoloir, aura à choisir.
Ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, dans laquelle on voit qu'il y a effectivement des sujets de débat, et aussi, bien entendu, et c'est un peu normal quand même, de grands points de convergence entre vous tous. Eugénie Bastier, donc je rappelle le numéro 4 de Limite, qui je pense est toujours en kiosque, oui. Revue d'écologie intégrale. Grégoire Cata, on peut renvoyer vers la revue Projet. Le dernier numéro, vous vous souvenez ?
Le dernier numéro s'intitule « Je suis débordé, donc je suis ». Une réflexion...
qui me convient bien, par exemple.
Voilà. Réflexion sur l'accélération dans notre société.
Voilà, et merci à Vincent Némon, donc porte-parole de la conférence des évêques de France. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard, émission réalisée par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son ce soir Emmanuel Morse d'Incan. Demain, les nouveaux profs ont-ils le niveau? Ce sera l'occasion du classement PISA, mais plutôt que de nous intéresser aux élèves, on va s'intéresser aux enseignants.